Alors si en plus un grand pays fondateur, et il n'y en a qu'un qui puisse dire non, puisque l'Allemagne et l'Italie n'organiseront pas de référendum, si un grand pays fondateur dit a des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Ce sera la crise? Ben oui, parce que vous savez ce que c'est la crise. La définition de la crise en sciences politiques, c'est quand le peuple n'accède pas aux attentes du pouvoir. Donc, nous allons avoir la crise. Mais j'ai envie de dire plus sérieusement, et je m'adresse à nos élites politiques, tous partis confondus, est-ce que vous n'auriez pas dû vous préoccuper de la situation le 13 juin dernier au soir, quand sur 350 millions d'électeurs inscrits, 200 millions ne sont pas allés voter? C'était pas ça déjà la crise? Quand près de 60% des électrices et des électeurs européens, pour une élection européenne, se désintéressent des institutions européennes, c'est pas à ce moment-là qu'il aurait fallu mettre les choses à plat plutôt que de nous offrir ça? Bon, ce sera la crise. Maintenant, il y en a d'autres qui disent autre chose. Hein. On nous parle de chaos, de la fin de l'euro, la mort de l'Europe, et il y en a même un, M. Strauss-Kahn, pour ne pas le citer, qui nous a annoncé que ça aurait les effets d'une bombe atomique et qu'on allait être tous vitrifiés. Et vous pouvez lire et dans Le Monde, dans Libé, dans la plupart de tous les canards, et entendre à la radio et à la télévision matin, midi et soir que si la France dit non, c'est la pire des catastrophes. D'abord, moi, il y a une chose que je voudrais vous dire. Je vous ai parlé de mon grand-père tout à l'heure. Il m'a appris pas mal de choses, et notamment ceci. Il me disait, être de gauche, c'était un militant ouvrier, fils de mineur et mineur. Être de gauche, c'est faire appel à l'intelligence et à la raison. C'est la droite, disait-il, lui qui l'avait connu entre les deux guerres. C'est la droite qui fait toujours appel à la peur, aux sentiments et aux passions. Alors, peut-être ceux qui, à gauche, aujourd'hui utilisent ce genre de technique, signent-ils ce qu'ils sont devenus? Mais soyons sérieux. Si ce traité n'est pas adopté, le traité de Rome, modifié par l'acte unique, Maastricht, Amsterdam et Nice, continue à fonctionner. La Commission européenne continue de fonctionner, le Parlement continue de fonctionner, le Conseil des ministres continue de fonctionner, la Banque centrale continue de fonctionner, la Cour de justice continue de fonctionner. Je vous dirais même, pour quelqu'un qui s'intéresse à la science politique, c'est assez rare de voir quelque part sur la planète un endroit où tous les éléments de la permanence, de la continuité, de la stabilité sont en place. Il n'y a pas de quoi paniquer. Si ce traité n'est pas accepté, alors certains vous disent, oui, mais si ce n'est pas ça, c'est cet horrible traité de Nice. Parce qu'il est devenu soudainement horrible. Moi, je n'ai jamais entendu, je ne sais plus, moi, 30 ans, 35 ans de construction européenne, que les traités de Rome, le traité de Rome était horrible. Mais il est dans Nice maintenant. Alors, si on nous parle de ce qui fut décidé à Nice, qu'on qualifie d'horrible, et notamment ceux qui l'ont négocié et signé, moi, j'étais à Nice. Quand M. Moscovici, ministre délégué aux affaires européennes, M. Jospin, Premier ministre, et M. Chirac, président de la République, sont venus nous présenter les résultats de Nice, ils n'étaient pas en deuil, ils ne nous présentaient pas quelque chose d'horrible, ils nous disaient même que c'était la plus grande avancée réalisée à ce jour. Qu'est-ce qu'on a décidé à Nice? Le nombre de membres à la Commission européenne compte tenu de l'élargissement. Le poids respectif des États au Conseil des ministres, compte tenu de l'élargissement, le nombre de parlementaires par pays au Parlement européen, compte tenu de l'élargissement. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ces décisions-là, elles sont dans le traité. Pour la Commission et pour le Conseil jusqu'en 2009, pour le Parlement jusqu'en 2014. Quand on vous dit si ce n'est pas ce traité, c'est Nice, mais si c'est ce traité, c'est Nice aussi. Jusqu'en 2009 ou jusqu'en 2014. Alors on vous dit, oui mais la France va être isolée, elle va être toute seule. Bon, moi je voudrais vous dire que, je vais parler des Pays-Bas, ça fait deux parmi les 6 fondateurs. Et c'est pas les seuls pays où ce texte, contrairement à ce que devrait être une constitution, il divise. Une constitution, c'est un texte qui rassemble. Ce n'est pas un texte qui divise. Ceci est un texte qui, qu'on le veuille ou non, que le oui l'emporte ou que le non l'emporte, c'est un texte qui divise profondément. Et pas seulement en France. Le débat a lieu ailleurs, mais il n'a pas toujours les allures qu'il prend en France, dans le pays de Bossuet et de Jaurès. Ça, c'est sûr. Mais chacun a sa culture politique. Mais ce texte divise. Et donc, dire que la France est seule à connaître ce genre de débat qui peut déboucher sur un non, sur un rejet, c'est utiliser un argument pour faire peur. Parce qu'il n'y aura pas que le non français s'il y a un non français. Et puis je trouve que... Est-ce une honte ? Est-ce une honte d'affirmer des principes et de s'y tenir ? Le Belge d'origine que je suis est très heureux qu'il y eut la France toute seule en 1789 contre toutes les monarchies de droit divin européennes. Et le Belge que je suis est très heureux que ce soit un Français qui, à un moment où tout le monde désespérait, où plus personne ne croyait à un avenir possible, a incarné l'esprit de résistance. Et puis je vous dirais que on est assez malvenu en France d'invoquer cet argument, parce que dans l'histoire de la construction européenne, il s'est trouvé un moment un président de la République française pour pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui dans les manuels la politique de la chaise vide, parce qu'il estimait que des intérêts fondamentaux de la France étaient lésés, et qu'il a rappelé le représentant permanent de la France à Bruxelles, les membres français de la Commission européenne. Ça, il y a eu crise, ça a duré 9 mois et un peu plus même, puis il y a eu négociation, puis il y a eu un compromis, ça s'appelle le compromis de Luxembourg, et les choses ont repris leur cours. Et à l'époque, j'ai envie de dire, l'encre du traité de Rome était à peine sèche. L'Europe n'avait pas 10 ans. Elle n'avait pas derrière elle 5 traités, tout l'acquis communautaire. Elle était dans un état de fragilité la plus grande qu'elle pouvait être. Elle n'en est pas morte, et les choses ont même repris leur cours. Je vous dirais d'ailleurs que, en dehors de ces temps de passion, quand vous interrogez des universitaires spécialistes de la construction européenne, ils veulent bien reconnaître que l'Europe n'a avancé qu'à coup de crise. Parce que ce sont les crises qui ont remplacé l'esprit visionnaire qui fait terriblement défaut à nos décideurs politiques. Encore une fois, il n'y a pas de quoi paniquer. Alors pour terminer, pour conclure, je voudrais... Attends une minute, s'il te plaît. Je voudrais vous montrer une autre constitution. Mais rassurez-vous, un article seulement. Un article qui fut rédigé par des hommes jeunes. Quand je pense au septuagénaire Giscard, soutenu par le septuagénaire Chirac, que viennent de rejoindre les septuagénaires Delors et Rocard et Mauroy dans le soutien à ce texte, et que je pense à ces hommes jeunes dans des temps hyper tumultueux qui ont eu la sagesse d'écrire ceci. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, de changer la Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Je n'ai pas envie de laisser aux générations qui viennent le passif des hommes du passé. On m'a toujours appris qu'une des constantes de l'histoire de l'humanité, c'était qu'une génération devait laisser à celle qui suit plus et mieux que ce qu'elle a reçu de la génération qui précède. J'ai l'intime conviction que si ce traité est adopté, je laisserai à mes 3 enfants moins que ce que j'ai reçu de mes parents. Je vous remercie de votre attention.